Vous écoutez
RMC.
On termine sur le mercato, car il se passe beaucoup de choses, hein. C'est de l'actualité et pas forcément des projections. Arne Slot, c'est terminé aussi, Julien, c'est une des infos du week-end importante. Certains pensaient qu'il allait quand même rester, malgré sa saison ratée à la cinquième place, terminée à la cinquième place de Première Ligue. C'est terminé pour lui. Le successeur, en revanche, n'est pas connu officiellement, Julien. Iraola est le grand favori, bien sûr.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que les négociations ont commencé déjà avec Anthony Iraola et ça, je vois pas pourquoi ça se ferait pas. Arne Slot limogé, ça fait plusieurs semaines maintenant que je disais que je comprenais même pas pourquoi il était encore au club et pourquoi il allait rester la saison prochaine quand on nous disait que qu'il allait rester. J'ai pas trop compris, je comprenais pas, je l'avais déjà expliqué. Pour moi, c'était récompenser la médiocrité que de le laisser en place. Je comprends très bien qu'il avait gagné le titre de champion sur sa première saison. On va pas non plus revenir sur sur le contexte de cette saison-là, notamment l'après Klopp et le fait qu'il y avait eu aucune recrue l'été où Slot arrive en fait. Donc c'était encore vraiment l'équipe de Klopp. Et pour moi, à part aller jusqu'au mois de janvier, ça tout allait très bien. Et à partir de janvier, le reste, tout s'est compliqué en fait. Donc pourquoi garder quelqu'un comme entraîneur quand il a finalement réussi 6 mois sur 2 ans? Pour moi, ça n'avait aucun sens. Et je suis content sincèrement, pas simplement parce que ça va dans le sens de ce que je disais dans l'émission depuis maintenant plusieurs semaines, et parce que je trouve que Liverpool a pris la bonne décision.
Enlève Vincent et Iraola qui devrait arriver également. Ça peut matcher. Iraola, bon, qui a réussi avec Bournemouth, bien sûr, entraîneur en vogue. Tu vois le mariage réussi, toi, a priori?
Alors moi, je pense que c'est un très bon coach qui va devenir un très grand coach quand il sera dans un grand club, ce qui va être le cas là. Il aura peut-être besoin d'un petit peu de temps pour se familiariser aussi avec l'environnement, ne serait-ce que la pression déjà, parce qu'à Bournemouth, comme au Rayo avant qu'il vienne en Angleterre, la pression, ça n'existait pas pour lui. Il n'y avait pas vraiment d'attente ou quoi que ce soit dans des clubs comme ça. Là, en revanche, à Liverpool, c'est chaque match que tu dois gagner. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec Bournemouth ou le Rayo Vallecano. Donc, ce sera à lui de s'adapter très vite en termes d'état d'esprit. Il est beaucoup plus proche de Klopp que Slot ne l'aurait jamais été, déjà. Quand tu penses que la saison dernière, le Liverpool sous Slot avait couru moins que l'adversaire dans 90% de ses rencontres, pour une équipe comme Liverpool dans un club pareil, c'est inadmissible et inacceptable. Ce sera pas le cas avec Iraola. En revanche, il y a toujours le même problème de qu'est-ce qu'on fait avec Wirtz, Isak et Kitike quand il reviendra. Comment on remplace ça là? Donc, et le recrutement de cet été va être très important. Et surtout, ses premières décisions à lui sur comment organiser cette équipe là. On sait qu'il a l'habitude de jouer en 4-2-3-1. C'était le cas à Bournemouth. Je vois pas pourquoi il va changer maintenant. Mais où est-ce que tu mets toutes ces pièces là du puzzle dans son puzzle à lui? Ce sera très intéressant à voir.
Bon, l'incompréhension, évidemment, c'est le, Xabi Alonso, qui n'est pas entraîneur de Liverpool cette saison prochaine, s'est joué à quelques jours près. Est-ce que ça aurait été possible si le timing avait été différent, si Slot avait déjà été évincé il y a 2 semaines, avant même la fin du championnat, en tout cas annoncé comme tel? Ça, on ne saura jamais, Julien. Sincèrement, Xabi Alonso serait venu et si Liverpool l'aurait choisi aujourd'hui, réellement, quoi. C'est ça.
Non, mais on en saura sûrement lors de la première conférence de presse, de Xabi Alonso comme entraîneur de Chelsea, parce qu'on va forcément lui poser la question.
Après, il répondra ce qu'il voudra, bien sûr.
Oui, bien sûr, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a eu un problème de timing. Tu l'as très bien dit, Nico. Je pense que le procédé du limogeage de Slot, qui part du club de Liverpool avec Richard Hughes et Michael Edwards, qui sont en charge du sportif, on va dire, entre guillemets, pour simplifier, doit ensuite aller aux États-Unis chez les propriétaires de FSG avec Mike Gordon, et donc il y a aussi beaucoup de gens qui décident, et c'est pas, ça prend du temps et c'est un peu compliqué et tout ça, et je me demande si c'est pas un petit peu ça qui a fait aussi que à un moment tu devais laisser Slot en place pour absolument accrocher le top 5, tu l'as fait, et puis après ça a pris un petit peu de temps, et donc forcément t'as raté Xabi Alonso, qui lui, rappelez-vous, avait déjà été annoncé par Chelsea alors que la saison n'était pas encore terminée, ce que Liverpool n'aurait pas pu faire vraiment. Ça aurait risqué de mettre en péril la fin de saison et le fait que de ne pas accrocher la Ligue des Champions peut-être. Donc il y a tout ça qui fait que ils ont peut-être raté Xabi Alonso, pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce que le timing effectivement n'était pas adéquat.
Alors voilà pour les coachs. En Allemagne également, il y a un retour chez toi, Polo. 5 ans après, à 18h, retrouve l'Eintracht Francfort. Ça a été annoncé ces dernières heures. 5 ans, il avait fait quoi? 3 saisons sur place, 18-21, une demi de Ligue Europa. Il avait été l'entraîneur de l'année, hein, 18-19 par les lecteurs de Bild notamment. Comment tu analyses ce retour? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Eintracht, ce retour d'Adi Hütter?
Alors c'est intéressant parce que lorsqu'il a fait la conférence, il a été présenté évidemment ou représenté et il y a eu des questions des journalistes et il y a une journaliste qui n'était pas tellement finaude, je trouve, lui a dit lorsque vous êtes arrivé en Bundesliga, vous étiez un no name. Aujourd'hui, vous avez réussi votre demi-finale d'Europa League avec Francfort, vous avez été à Monaco, vous revenez comme ça alors que le club a beaucoup changé, a aussi gagné une Coupe d'Europe notamment en 2022. Comment vous percevez, comment vous voyez votre retour? Je trouve que cette question est assez limite au niveau du respect par rapport à qui est Adi Hütter, qui avait réussi en Autriche et en Suisse avant d'arriver en Bundesliga et qui était l'une des personnes de très cotées. Mais lui, il explique qu'en fait, il est toujours resté en relation en fait avec Francfort et notamment avec Markus Krösche. Moi, je suis jamais un grand fan des retours comme ça. Maintenant, on est dans une telle situation à Francfort que l'objectif est très simple. Allez, bon, déjà, il va y avoir une réduction de la voilure très claire à Francfort avec quelques ventes qui vont rapporter un paquet de pognon du côté de Francfort, mais surtout il va falloir à nouveau stabiliser l'équipe avec un gros pressing, on va dire l'école Red Bull qui est très classique. Donc ça, c'est ce qu'il sait très bien faire. En plus, le fait de choisir Adi Hütter, qui n'est pas quelqu'un de forcément très souple systématiquement avec certains joueurs, voir son passage à Mönchengladbach et avec Thuram par exemple, fait que il y a peut-être pas qu'un problème d'entraîneur à Francfort et que c'est peut-être justement une façon de nettoyer le vestiaire et de repartir sur de bonnes bases. Donc moi je vois ça comme ça. L'obligation l'année prochaine ce sera d'aller chercher une Coupe d'Europe, aussi petite soit-elle, une qualification pardon. Maintenant à 18h on voit ses qualités, c'est un excellent entraîneur, est-ce que c'est un grand entraîneur? Je n'en suis pas persuadé.
On ne sait pas encore, on n'a pas la réponse, on l'a pas vu à Monaco le grand entraîneur puis, en tout cas.
Ouais, et puis juste un petit mot sur Iraola, c'est que vous savez que Philippe Luis s'est engagé aussi en L1 avec Monaco et il semblerait quand même que Leverkusen ait raté Philippe Luis, qui lui voulait absolument qu'on lui dise oui, et que le Bayer Leverkusen était en train de s'occuper, était occupé avec Iraola avant qu'il signe évidemment à Liverpool, et il se risque de se trouver vraiment dans le bec dans l'eau, puisque n'oublions pas, et j'ai vérifié parce que c'est un truc moi qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui ils sont en train de chercher un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, Leverkusen, mais ils ne sont toujours pas séparé de Kasper Juhlmann. C'est-à-dire que voyez ce qui risque de se passer. Kasper Juhlmann, qu'on accuse de tous les maux aujourd'hui du côté de Leverkusen, mais je pense que Leverkusen, depuis son doublé de 2024, a pris un petit peu la grosse tête, risque de se trouver le bec dans l'eau. Et Oliver Glasner, qui est aussi annoncé en discussion avec Leverkusen, n'est pas forcément une piste très chaude pour le club allemand. Donc moi, j'attends avec impatience les nouvelles du côté de Leverkusen. Qui va s'occuper du banc, qui va être sur le banc l'année prochaine.
Daniel est juste, on est allé un peu vite sur Adrien Rabiot, il y a beaucoup de questions notamment sur le chat YouTube. Quel avenir pour lui, son père spirituel d'entraîneur avec Deschamps, c'est Massimiliano Allegri, qui va donc, c'est pas encore officiel, hein, signé à Naples, c'est assez fou, il fait le tour des clubs. Est-ce que Rabiot va le suivre? C'est ce que je lisais dans la presse italienne ce matin justement.
Alors oui, ce qu'il dit c'est que ça dépend de Anguissa en gros, c'est-à-dire le Naples, ils ont un milieu assez riche, il va falloir que quelqu'un parte, c'est peut-être Anguissa qui va partir, et alors là oui, ça serait possible que Rabiot rejoigne Allegri, que voilà, on sait qu'il le considère un deuxième papa, on a fait ces mêmes discours l'année dernière, parce que il paraît à un certain moment que c'était absurde que Marseille allait se séparer de Rabiot et tout ça, et moi je disais, mais regardez que Allegri, il l'appelle, lui il répond et il lui passe les téléphones, quand il lui passe les téléphones il lui dit c'est ton papa. Donc il y a une relation spéciale. Apparemment, ça, c'est pas sûr, on sait pas si c'est vrai. Allegri, lors du dernier match, il savait déjà qu'il allait partir, il savait déjà qu'il allait à Naples, et il allait chez Rabiot, chez Salemakers, leur dire de le rejoindre à Naples. Entre-temps, il y a De Bruyne qui s'est plaint du jeu de Conte, en disant que c'était pas assez amusant, et c'était pas assez, il jouait pas assez au football. Voilà, il lui avait promis quelque chose qui lui ont pas donné. Et donc voilà, on va, qu'est-ce qui va se passer avec Allegri? Peut-être que le milieu de Naples change beaucoup. Pour le moment, il y a beaucoup de gens. Donc il va falloir que quelqu'un parte, va falloir faire du mercato, parce que Naples, ils avaient aussi beaucoup dépensé pour compter justement pour essayer de gagner les championnats deux fois de suite. Et donc voilà, on
ne sait pas vraiment. Moi, la question de l'avenir de De Bruyne également qui se pose,
oui.
Daniel, chez toi à Naples. Beaucoup de questions qui vont se poser là, les anciens notamment. Est-ce qu'un Luka Modric va rempiler, va rester au Milan par exemple?
Non, mais Modric, pour le moment, ce qu'il dit, c'est qu'il va saluer le football, il va, ses derniers matchs, il va aller jouer la Coupe du Monde. Et voilà, si vous voulez, on peut dire que l'Italie, elle a tellement fatigué Modric qu'il a plus envie de jouer au foot.
Quoi, terminé, dégoûté du football, quoi. Voilà,
c'est mais ça. Lui, deux jours avant que le Milan limoge Allegri, il avait parlé d'Allegri comme un des meilleurs entraîneurs qu'il ait jamais eu. Donc, je sais pas non plus qu'est-ce qui se passe dans la tête de Modric. Peut-être le coup qu'il a pris à la mâchoire, à la pommette, c'était très fort.
Il a perdu un peu la tête, peut-être, exactement. Ouais. Bon, pour conclure sur le mercato, c'est brûlant, visiblement, Julien, concernant Pierre Sage et Crystal Palace. Hein. Je vois la BBC qui disait que, bon, depuis plusieurs semaines, Crystal Palace observe, et tente d'approcher Pierre Sage, le coach de Lens, bien sûr. Qu'en est-il aujourd'hui?
Oui, je pense effectivement que les positions se rapprochent, toutes les positions, hein, celle de Lens aussi forcément, parce que pour eux, ben, il faut préparer l'après Pierre Sage s'il s'en va, il était encore son contrat aussi, donc il y a forcément un accord à trouver entre les deux clubs. Pour Crystal Palace, c'est vrai que depuis longtemps, ça ne date pas que de cette saison, on l'a expliqué un tout petit peu hier dans l'after avec Gilbert et les garçons, que le fait que des clubs anglais comme Liverpool, comme Crystal Palace avaient forcément déjà noté le très bon travail de Pierre Sage à Lyon, déjà avant même son arrivée à Lens, mais encore plus après la très belle saison qu'on a vue à Lens, notamment dans son côté intensité, pressing, mouvement, etc., la façon dont son équipe joue. En plus, quand on suit Glasner, quand tu succèdes pardon à Glasner et sa défense à 5, et que tu joues déjà dans une défense à 5 avec les mêmes joueurs, c'est forcément plus pratique. Donc du côté de Crystal Palace, on voulait un entraîneur qui jouait avec une défense à 5. Et donc c'est vrai que Pierre Sage, comme disent les Anglais, ont cette expression, ils disent « tick all the boxes ». Donc il coche toutes les cases en fait de ce que Palace recherchait. Et après, ce serait triste de le voir quitter Lens et de pas amener cette équipe en Ligue des Champions comme il l'a qualifié pour la Ligue des Champions. Mais moi, je serais très excité de le voir en Première Ligue. Et même si je serais très triste pour mon ami Joseph Ougourlian, je pense que ce serait un très bon coup réalisé par Crystal Palace et leur club.
Il a des amis partout, Julien.